Mais on peut du coup enchaîner peut-être avec Christiane pour que tu nous parles un peu de ce qui a, fait aussi la grande table de pique-nique de ce jardin du conservatoire pendant tout le mois de juillet. Et ça, ça va?
Je vais le laisser là, ça va aller. Et je vais pas tourner la tête. Mais en fait, je bouge beaucoup, donc si je peux l'enlever, c'est mieux.
C'est le côté italien, justement. Donc, alors, pour les cours de français, ben, il s'agissait évidemment pas d'organiser simplement des cours de français parce que ça existe déjà, que c'est extrêmement bien fait à Nyon. Mais il s'agissait de proposer déjà des cours pendant l'été, c'est-à-dire à la période où les écoles ferment, où Caritas ne donne pas de cours. Et d'aller voir aussi ce qui se faisait ailleurs. C'est des cours qui existent déjà à Lausanne, à Yverdon et à Genève. C'est des cours donc qui se passent en plein air, juste dans ce magnifique parc, qui sont ouverts à tous, qui sont gratuits, sans inscription, qui ont lieu pendant 3 semaines, pendant 2 heures tous les soirs. Et puis, pour faire venir du public ou des apprenants, ben en fait, on passe évidemment par les associations, mais on écrit aussi à toutes les entreprises lyonnaises. Ce qui fait qu'on a la chance d'accueillir un public extrêmement varié, au profil socio-économique très différent. On a des gens qui bossent pour des grosses boîtes internationales, des requérants d'asile, des femmes de ménage, des mères au foyer, des pères au foyer aussi. Donc ça, c'est vraiment une chance. Ce qui est aussi très chouette, je trouve, c'est que les parents peuvent venir avec leurs enfants. Donc à ce moment-là, évidemment, on a des gens qui s'occupent des enfants. Ce qui fait qu'il y a aussi cette première approche du français, parce que peut-être que les enfants à la maison ne parlent pas du tout français. Donc là, ils sont dans le jeu, ils sont dans cet apprentissage, dans le faire ensemble. Et c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Donc c'est la 5e année que c'est organisé à Nyon. Il y a énormément de monde. On a eu la chance l'an dernier de pouvoir quand même les organiser. C'était vraiment la petite fenêtre non-Covid 2020 et ça s'est hyper bien passé. Enfin voilà, moi je pense que j'ai beaucoup de chance de pouvoir organiser ça parce que ça me permet justement de rencontrer plein de gens. Et puis de leur dire, bah voilà, apprendre le français c'est important. C'est important d'une part parce que pour s'intégrer, c'est le premier pas pour moi. Puis d'autre part, bah, je dirais peut-être malheureusement, parce que maintenant c'est une obligation pour avoir un permis de séjour, pour un regroupement familial, pour un renouvellement de permis. Donc voilà, leur dire, mais voilà, nous on vous offre cette première possibilité, cette première approche dans un cadre super ludique, photo-langage, on rigole, on fait des jeux. Et puis après, bah voilà, moi je leur passe le témoin, puis c'est à eux de prendre la suite.
Oui, puis aussi, tu disais cette chose importante qu'on a réentendue. Enfin, déjà, merci de tout ce que tu nous as partagé et de la possibilité que tu nous as donnée de rencontrer Sophie juste derrière et d'autres. Mais aussi, ce qui a été dit par plusieurs personnes dans les entretiens, le fait que finalement, ça soit aussi un prétexte, puisque ça permet bien plus que d'apprendre le français. Et ça permet aussi, en effet, ces rencontres improbables qui, malheureusement, se passent de moins en moins fréquemment, puisqu'on est de plus en plus privé de ce qui faisait le public de nos espaces publics, c'est-à-dire la possibilité des rencontres hétérogènes. Et là, c'est vrai que c'est des gens très, très différents qui sont réunis juste par le prétexte commun qui, du coup, remet tout le monde à égalité d'apprendre le français. Et que, comme tu le disais, que tu travailles à l'UEFA ou que tu sois primo-arrivant, comme on dit ça en France, voilà, il y a le fait que ça travaille ensemble et les gens se rencontrent de manière différente. Enfin, ça redistribue justement ces cartes de l'identité avec lesquelles tu as toi aussi tant de problèmes.
Et ça permet justement d'aller plus loin. Et c'est vrai qu'on parlait de... Moi, je parle depuis des années de projets prétextes. Je le vois avec mes collègues travailleurs sociaux dans les quartiers, pareil. Évidemment, le projet, c'est sympa, l'activité, elle est chouette, mais le but, c'est la rencontre, d'aller plus loin et de se dire, bah, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, où est-ce qu'on peut aller ensemble, et puis faire émerger parfois des problématiques qui peuvent être prises en compte et pas prises en charge.
Et cette chose-là de prise en compte et pas prise en charge, je crois que quelqu'un aussi nous en parle autrement, mais très bien, qui est Monsieur Grillon. Qui est venu aussi accompagner avec d'autres personnes de l'association, dont des jeunes gens avec lesquels il travaille. C'est une forme de collaboration aussi. Et on t'a entendu dire dans l'entretien que finalement, tu faisais rien d'autre que ouvrir la porte. Et ça me faisait penser à Christiane par rapport à cette chose de créer un prétexte, créer une occasion, et que c'est toujours plus que ce qu'on va mettre sur un intitulé d'association pour avoir une aide officielle. Peut-être que c'est intéressant que vous puissiez nous raconter un peu ce que vous faites ensemble pour essayer d'aller ensemble plus loin, en commençant par ouvrir les portes qui restent bien souvent très 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 cadenassées.
Oui, bonjour. Pour dire qu'effectivement, on ouvre les portes pour un centre d'accueil, nous, pour recevoir les jeunes en difficulté, où on crée de l'emploi en ayant créé une SARL. Justement, j'entendais la roulotte. L'hiver, il y a une yourte qu'on peut voir à la place de cette roulotte, en fait. Et avec notre association qui met en place ces yourtes, et on fait travailler les jeunes. Le but, donc, est de faire de l'accueil pour jeunes en difficulté et de les occuper et de créer de l'emploi. Voilà. C'est tout ce que je peux dire par rapport à Nyon, qui est une super ville qui nous a invités, je remercie. Et pour plus de détails, ben, je peux plutôt passer la parole à un jeune, un résident, qui s'occupe des yourtes.
Avec grand plaisir.
Alors,
voilà, alors on passe au second, c'était super, merci d'aider.
C'est intimidant les micros, mais si tu veux bien, Loïc, on serait ravis de t'entendre.
Ouais, bah en fait, voilà, on est placé dans un alpage et on travaille du coup avec les vaches et tout, puis on monte des yourtes la journée. Puis du coup, c'est tout. C'est pour faire, pour travailler en fait, c'est pour nous faire travailler, pour nous occuper, puis faire une sorte de réinsertion sociale, c'est un peu ça. Nous apprendre à taffer en fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Alors je trouve qu'en fait c'est une très bonne opportunité pour pouvoir ouvrir une porte, donner un moyen de voir quelque chose d'autre, de changer son cadre en fait de vie, de pouvoir s'ouvrir à autre chose et puis voir que même si on est dans un moule, qu'on peut sortir de ce moule, sortir de sa ville, sortir, aller ailleurs, voir d'autres choses. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Et c'est donner ce petite étincelle à certains jeunes qui réussissent à la prendre et comprendre en fait qu'ils peuvent avancer dans leur vie et qu'il y a énormément d'autres choses que ce qu'on voit tous les jours. Donc de ne pas rester dans son cadre réellement.
Merci, c'est hyper important ce que tu viens de rappeler, parce que Loïc, t'es un peu dur. Quand tu dis « ça nous apprendra à taffer », ça pourrait être vachement plus... la formation beaucoup plus stricte que celle d'être dans un alpage et dans le cadre que j'ai l'impression notre ami Monsieur Grillon a essayé d'aménager un peu avec vous tous. Mais c'est quand même une autre manière d'avoir un rapport en effet à son environnement que celui simplement d'une... d'une production et d'une efficacité, mais du coup c'est précieux ce que tu as rapporté, ce que tu as rappelé et ajouté Dédé. Donc merci, mais
moi je suis Catherine, enchantée. Je suis l'infirmière de l'association, et je rebondis sur ce que dit Dédé. Dans le fond, moi c'est pareil, je suis un peu sortie de mon cadre d'infirmière en institution, avec des horaires, avec un cadre très précis qui m'étriquait dans un rôle que j'aimais pas trop. Et puis c'est vrai que l'association Grillon, enfin tous les gens qui représentent cette association m'ont permis d'apprendre une autre manière de travailler qui est vraiment en lien. Alors j'étais une convaincue quand même des soins individuels et puis de l'approche individuelle, puis que il y avait pas de procédures ou de manières de soigner des règles, et puis que la meilleure manière de soigner, à mon avis, c'est d'aller avec la personne, avec ses particularités, et puis d'apprendre d'elle pour peut-être lui donner l'aider peut-être à suivre un peu sa route. Mais disons que l'association m'a permis de confirmer que, dans le fond, c'était, c'est sortir des rails, c'est entrer dans un monde de liberté où tout est possible, dans le fond, parce que bah, c'est vrai qu'on a affaire parfois à des jeunes, et je m'excuse de le dire, mais des fois on a affaire à des personnes qui sont un peu rejetées de partout, que personne n'est trop d'accord d'entrer en matière, parce qu'ils ont quand même un passé un peu lourd, hein, parfois, pour certains. Et puis, en fait, ils nous montrent tellement que chaque individu a des ressources pour nous montrer la voie, mais il faut aller avec, il faut pas aller contre.
Merci, c'est une belle, un bel écho de singulier commun, ce que vous venez de dire en tout cas, sur le fait de se déplacer aussi pour aller à la rencontre des singularités et pas des cas, parce que c'est aussi comme ça que fonctionne beaucoup nombre de nos institutions. Il y a des identités types qu'il faut soigner ou formater ou réformer ou éduquer d'une certaine manière unique, et l'individu ou la singularité est constamment mis au second plan, alors que là, de ce que j'entends, de comment vous procédez, qui est assez proche de ce que nous racontait aussi Christiane dans différentes de ses activités, c'est une manière d'aller à la rencontre du singulier, non pas pour faire du cas par cas clos sur lui, mais en ayant cette qualité d'écoute et d'attention, ça recrée une attention collective, à la fois partagée, parce que c'est pas que vous qui en êtes garante, mais c'est aussi une qualité de manière de recevoir les personnes qui transparaît beaucoup, je crois, dans ce lieu. Donc peut-être c'est bien de dire le nom d'ailleurs de l'association, puisque nous on vous connaît, mais peut-être que plein de gens ont envie de vous connaître mieux.
Alors l'association, c'est Alibaba & You.
Et pourquoi? Et
parce que c'est Monsieur Grillon, qui, quand il était en Inde, qui travaille aussi en Inde, les jeunes enfants n'arrivaient pas à dire le nom Grillon, donc il l'appelait Alibaba. Donc Alibaba et You, Alibaba et toi, parce que on travaille avec la personne, tout simplement.
Est-ce que Monsieur Grillon veut rajouter quelque chose?
Oui, je vais pas. C'est juste ce que dit Dédé, puisque les jeunes, l'hiver, peuvent nous rejoindre sur l'Asie, où on a plein de projets dans différents pays. Les enfants, effectivement, n'arrivaient pas à prononcer mon nom, donc m'ont appelé tout de suite Alibaba. Et effectivement, Alibaba, and you et toi, ensemble, nous allons faire quelque chose. Et la porte à côté, Alibaba and yurt, puisqu'on fait les yurts, on importe les yurts pour toute l'Europe. Depuis la Mongolie, ce sont des projets aussi. Eh bien, il y avait un petit pas à faire. Voilà. Et puis, c'est un lien aussi assez symbolique avec les 40 voleurs qu'on connaît. Tout le monde dans la planète entière connaît Alibaba, les 40 voleurs. Alors que nous, on a affaire à toute la planète, à tous les voleurs.
On les a entendus. Merci beaucoup. Encore une fois, là, on fait des débuts de présentation des uns et des autres, puisque vous avez tous des mondes à raconter. Mais on pense à nos auditeurs qui n'ont qu'un temps limité, parce que nous, on pourra continuer après au bord du lac à converser. Mais une chose aussi que vous avez dit, Catherine, sur le fait de sortir aussi d'un cadre ou d'une certaine manière de concevoir un travail d'infirmière, c'est quelque chose dont on nous a plusieurs fois parlé aussi dans nos rencontres à distance, notamment Myriam, qu'on a entendue dans une des multiples choses que vous avez entendues, et qui parlait de ça, oui, le fait qu'elle soit devenue veilleuse, indépendante, en sortant aussi d'une certaine manière de penser le soin en hôpital, et enfin des problématiques qu'on a beaucoup entendues ces mois derniers. Je trouve ça intéressant aussi de voir que dans différents champs d'action, les choses se recoupent aussi dans la nécessité de faire ce pas de côté qui permet juste qu'on fasse ce pourquoi on fait ce qu'on fait très souvent. Donc voilà, si Myriam était là, donc Myriam, c'est une dame qu'on aurait adoré rencontrer, mais qu'on n'a pas pu rencontrer, mais je crois que, enfin, rencontrer physiquement, parce qu'on l'a rencontrée à distance. Je crois que beaucoup d'entre vous la connaissent. Elle a été très, très active aussi, justement, dans les distributions alimentaires qui sont mises en place à Nyon et ailleurs. Et voilà, c'est quelqu'un qui, si vous ne la reconnaissez pas encore, il faut que vous la connaissiez. Et toutes ces personnes-là, actrices et acteurs des associations, des manières de faire, de ne pas rester à la maison sans rien faire quand on était obligé de le faire. On a entendu Chloé en parlait, puis elle nous en avait beaucoup parlé pendant nos entretiens, mais c'est aussi Michel qui est là, lui aussi présent, et qui nous a beaucoup parlé de tout ce maillage associatif et le faire ensemble qui anime vraiment la ville de Nyon et qui, même si Michel aujourd'hui est à la retraite, continue quand même de porter cet esprit-là. Donc peut-être, Michel, tu veux ajouter quelque chose à tout ce que tu as entendu, nous raconter un petit peu ce qui fait la vitalité de Nyon pour toi depuis cet aspect-là de la coopération. Pour oui. laquelle tu as été très acteur, je crois, dans cette ville.
Oui, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais on parlait tout à l'heure du mieux vivre ensemble, en fait. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ça. C'est effectivement quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps. Étant donné le développement extrêmement rapide de la ville, en quartier très différent, la notion du mieux vivre ensemble est devenue évidemment primordiale, très importante. Et le mieux vivre ensemble, c'est pas seulement je dirais promouvoir de la mixité sociale et dans les quartiers, etc., mais c'est aussi, et on avait parlé de ça, c'est aussi un tissu associatif fort qui puisse réunir, qui puisse, disons, par prétexte, qui puisse réunir différentes nationalités, différents âges, entre les aînés, les jeunes, etc. On sait que dans notre société, il y a de plus en plus de gens seuls dans les immeubles, dans les quartiers, et que c'est souvent d'ailleurs des personnes plus ou moins âgées, et qu'à partir de là, il faut mettre en place, par les associations justement, mettre en place des prétextes de rencontre entre ces personnes. Ces personnes seules ne vont pas forcément sortir et se lier avec d'autres sans qu'il y ait un prétexte ou sans qu'on puisse le provoquer. Et c'est aussi pour ça que je parlais de l'usine à gaz, hein, à un moment. L'usine à gaz, tout le monde connaît, elle a fermé il y a 2 ans pour créer une nouvelle salle. Donc, mais le fait qu'elle ait fermé, il me semble, en tout cas pour moi, c'est là que je me suis rendu compte qu'elle manquait beaucoup, en fait. Et pourquoi? Parce que c'est une association qui fonctionne avec le support, qui fonctionne avec les membres actifs. C'est pas seulement un lieu de spectacle où on loue on accueille des spectateurs avec un prix d'entrée, mais c'est un lieu qui est animé, qui fonctionne, qui est organisé, qui fonctionne par les membres actifs. Alors j'en parle au présent, mais en fait je devrais parler à l'imparfait puisqu'elle a fermé il y a 2 ans, et c'est nombreux membres actifs qui faisaient fonctionner l'usine, en faisant à manger pour les artistes, en faisant les entrées, en tenant le bar, etc. Enfin, toutes sortes de fonctions différentes assumées par les membres actifs faisaient que tous ces membres actifs se retrouvaient très souvent dans ce lieu. Et beaucoup d'entre eux, on le sait, beaucoup d'entre eux qui vivaient seuls, etc., étaient extrêmement heureux de pouvoir enfin retrouver le week-end les membres actifs de l'usine pour faire des activités avec, pour faire à manger, pour etc. Et là, on pouvait rencontrer toutes sortes de personnes de milieux culturels différents, de milieux professionnels très différents, d'âges très différents. Hein. Moi qui ai tendance à prendre un peu d'âge, j'étais tout content de trouver des jeunes avec qui faire une activité, servir au bar, etc. Et ça, c'est quelque chose qui manque maintenant depuis 2 ans à Nyon, à mon avis, qui se fait sentir. Et j'ajouterais que ce lieu va réouvrir, évidemment. Donc heureusement que ça passe à la radio. J'espère que tout le comité de l'usine à gaz écoute la radio pour qu'on puisse remettre cette vitalité-là en place pour de nouveau attirer toutes ces personnes qui se voient. L'usine à gaz, qui existe depuis à peu près 25 ans, a fait et défait des couples pendant très longtemps. Donc c'est le lien est extraordinairement vivant et très fort entre les gens qui travaillaient à l'usine à gaz comme bénévoles. Mais voilà, c'est qu'un exemple, hein, puisqu'on parle du mieux vivre ensemble en général. Et je pense qu'on parlait de l'interculturel aussi, de la fête interculturelle. C'est un petit peu ce genre de fonction-là, de poser, d'organiser un prétexte pour que les gens puissent se réunir. Voilà, c'est un petit peu l'objectif j'espère, de toutes les associations.
Ouais. Merci beaucoup, mais quand même, dans ce que tu dis de que ça renaisse, peut-être aussi qu'on peut imaginer que ça ouvre des suites ou des manières de faire à la fois proches et différentes, puisqu'en tout cas, ce que je retiens qui est fort qui a été fort dans l'usine à gaz, c'est cette possibilité de, comme pour les cours de français, enfin ces rencontres un peu improbables où en effet les barrières de classe ou de milieux sociaux ou de provenance ne sont pas forcément des obstacles, mais au contraire est quelque chose, c'est le fameux prétexte qui permet qu'on fasse ensemble malgré tout. On a entendu dans les entretiens une jeune femme parlait justement d'un lieu à venir, qui est un lieu souhaité, qui serait justement un lieu au sein duquel des personnes très différentes pourraient se croiser, parce qu'il y aurait et un café, mais aussi une épicerie solidaire, comme elle a eu lieu à Nyon pendant un certain temps, comme vous le savez, les Nyonnaises et Nyonnais, et aussi un espace de littérature jeunesse, puisqu'il manque dans la ville. Et ces possibilités, en fait, d'inventer des espaces où les croisements sont encore possibles, c'est notre potentialité à chacun de recréer, de réinventer des petits espaces publics. Donc j'ai l'impression qu'en tout cas, nous, dans ce qu'on a entendu, souvent c'est revenu comme à la fois un potentiel de la ville et en même temps quelque chose qui n'est pas encore complètement existant, ou peut-être temporairement, parce que là on pourrait dire qu'on a un petit espace public un peu improbable avec des gens quand même assez différents qui sont réunis autour de ces tables. Et dans les personnes assez différentes réunies autour de ces tables et qui sont aussi très actives dans ce vivre ensemble, ce croisement des singularités ou ce croisement des savoirs, il y a quelqu'un qui est aussi une sorte de pivot entre les différents axes qu'on a pu aborder déjà dans l'introduction sonore que vous avez eue la gentillesse d'écouter, qui est Gianluca, qui dans tes actions, tu es très souvent impliqué dans ces manières de faire avec l'autre, faire avec les autres qui ne sont même pas considérés comme les autres, parce qu'on ne les voit pas, dont tu parles aussi, Christiane, avec certaines des personnes sans titre de séjour, que tu accompagnes malgré tout, mais que, voilà, qui sont les personnes qui sont là, qui travaillent, qui payent un loyer, qui ont des enfants scolarisés, mais que l'on ne voit pas. Et ces gens-là, comment est-ce qu'on agit avec ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on met en place ensemble? Non pas, encore une fois, comme on le disait, pour eux, mais sans eux, mais avec eux. Enfin, bon, ça, c'est plus dans le champ de Christiane. Mais toi, Gianluca, peut-être tu peux nous parler de tes actions et qui racontent aussi la sensibilité de singularité de jeune homme que tu as ici dans cette ville, et cette ville que tu peuples de tes ailleurs siciliens, italiens et multiples.
Alors je peux essayer de dire quelque chose dans ce rôle de pivot par rapport à, comme tu disais, ces singularités oubliées un petit peu. Par contre, je ne saurais pas par où commencer par rapport à cette thématique-là. Dans le sens que moi, j'ai été introduit dans ce projet par le biais d'une très chère amie d'enfance qui a eu, de par sa biographie, à un certain moment, un épisode qui l'a catapulté dans ce, si on peut dire ça comme ça, dans ce camp des minorités qui sont peut-être plus fragiles. Et on s'est réinventé avec d'autres amis à essayer de lui proposer une vie plus ou moins normale dans son territoire qui est celui de Nyon, et qui était celui de Nyon parce que maintenant elle est partie ailleurs, avec des activités banales quelque part. Pour raconter une petite anecdote. Étant donné que c'est une amie d'enfance qui habitait dans mon quartier, une des activités qu'on a fait à plusieurs reprises et qui était, à mon sens, très instructive pour tout le monde, autant pour elle que pour moi, c'était l'occupation du potager. Parce que pour elle, c'était une possibilité de réacquérir une certaine mobilité motrice. Ça lui permettait d'expérimenter son corps avec d'autres matières, avec du vivant, avec de l'eau, avec de la terre. Et en parallèle, bah, elle me donnait un coup de main, j'ai un petit potager, du coup elle me donnait un petit coup de main à arroser, à accueillir les fruits qui poussaient. Et dans tout ça, dans cet espace-là qui est hyper hybride, et on a aussi discuté la dernière fois, c'est dans le petit quartier de la Paix, il y a un ensemble de petites parcelles de jardins qui sont destinées à être cultivées par la population lyonnaise. Et il y a des connaissances latentes qui sont incroyables. Il y a un partage de connaissances, des mécanismes de solidarité qui se mettent en place, mais pour des choses toutes bêtes, que ce soit pour la commande de fumier ou pour une transmission de connaissances de à quel moment planter quoi. Et on a pu voir, en tout cas moi j'ai pu l'expérimenter notamment avec cet ami, que dans un contexte hybride, mais vraiment d'une manière plurielle, autant par les types de sociotypes qui vivent ce lieu, que de par leur âge, de par leur nationalité, de par leur expérience de vie, il y a du commun qui se crée, il y a de l'entraide qui se met en place, et il y a des enseignements qui peuvent s'en tirer de tous les côtés. Moi j'ai énormément appris avec mon ami, parce que ça m'a permis quelque part de me proposer d'autres rythmes de vie dans mon potager, au-delà des rythmes que le potager en soi m'impose. Et voilà, je pense que j'ai un petit peu balayé la thématique, mais sans trop d'ordre ni d'organisation dans ma pensée.
Non, mais c'est précieux ce que tu viens de dire. Enfin, chacun de vous apporte un peu d'engrais à notre compost. Mais ce que tu viens de dire, en tout cas, sur le fait de ce qui est diagnostiqué, encore une fois, ça touche à des choses que M. Grillon nous a partagées. Ce qui est diagnostiqué comme problématique ou comme une anormalité, parfois peut juste permettre de recréer les conditions d'un faire ajusté, avec un temps ajusté. Par exemple, là, ce que tu dis, le temps de l'attention, qui n'est pas le temps des urgences, qui est quand même ce qui rythme notre présent depuis, en France, 2015. L'urgence, les lois d'exception, les états d'urgence, c'est, voilà, on en a beaucoup, beaucoup. Et comment est-ce qu'on reprend le temps de faire attention, en fait, les uns aux autres, les unes, les uns aux autres, et à ce qui nous environne, qui est... voilà, des formes de vie fragiles, qu'elles soient humaines ou non humaines, puisqu'on t'entendait parler des grenouilles aussi, et de voilà, la manière dont tu ouvres les yeux sur les paysages est précieuse. Et je crois que c'est, enfin, en tout cas, un de nos rêves secrets dans tout ce projet et ces alliances qu'on essaie de rendre visibles, c'est aussi qu'en effet, il y a des choses qui puissent se passer des différentes initiatives que vous avez les uns les autres. Je crois qu'à la fois, vous êtes dans un petit territoire que vous ne connaissez pas tous et qu'il y a la possibilité de parfois s'entraider à travers les associations. On a entendu beaucoup de Grèce, de la Grèce, le pays grec, dans la première partie, mais on va réentendre avec Sophie. Mais c'est, voilà, c'est vrai que pour nous, c'est aussi des enseignants très forts, ces Grecs, de ces réseaux d'entraide, et notamment une des initiatives qui moi, me fait penser à certaines des choses que j'ai entendues à Nyon, qui s'appelait Solidarity for All, et qui était la possibilité, en effet, de mettre en relation et en articulation les différentes structures, associations, actions sur le territoire, qui justement sortaient de leur... terrain propre, c'est-à-dire les personnes s'occupant plus des jeunes pouvaient collaborer avec les personnes s'occupant plus des personnes en situation d'exil, ou les dispensaires de santé travaillaient avec les écoles solidaires. Donc c'est ces intelligences collectives, en fait, qui font aussi un peu le maillage humain d'un territoire. Donc là, on espère, comme je disais dans les rêves secrets, que ce que vous entendez les uns les autres peut, au-delà de l'émission, donner des suites. Et en tout cas, pour ce qui les suites que tu nous ouvres, toi, Gianluca, en rappelant à la fois l'exemple de cette amie avec laquelle tu fais ce que tu fais, c'était aussi pour nous la manière dont, par elle, nous sommes arrivés à toi. Elle qui avait été invitée par Swann Cherpillaud, qui n'est pas avec nous, mais que vous pourrez écouter le concert. Ah, il est là. Il nous l'a pas dit. Ah bah Swann, ah bah bienvenue. Ah bah on t'a entendu, mais ah c'est touchant. Mais viens donc. Ah bah j'allais faire ta pub pour le concert du samedi 21 à La Roulotte avec la communauté érythréenne. Voilà, une première suite, un premier branchement possible. Donc bah merci Swann, puisque grâce à toi, nous arrivons jusqu'à Gianluca. Et grâce à Gianluca, on va pouvoir poursuivre aussi dans justement les thématiques qui tissent un peu cette émission, et notamment une seconde qui est celle de, on pourrait dire, comment nos ici sont faits de nos ailleurs, puisque Gianluca, en effet, tu as aussi un rapport au temps et au paysage qui te vient, comme je le disais, de la Sicile, et d'une manière que tu as de t'occuper de la terre nyonnaise avec beaucoup d'inspiration sicilienne dans ce que tu nous as raconté. Je ne sais pas si tu veux en dire un petit mot de tes...
Oui, je peux en dire quelques mots. Au-delà de la Sicile, je pense qu'on a... On a tous une certaine capacité à effacer ou du moins inhiber certaines frontières physiques de par le biais de l'imagination. Et en bord du lac, une promenade au bord du lac peut très rapidement devenir une balade le long de la mer ou se faire caresser par le son des vagues qui peuvent être celles de l'océan. Et bah, souvent, c'est ce que je fais moi, étant donné que j'ai ma famille qui est en Sicile et dans le sud de l'Italie. En baladant dans mon territoire ici, qui est souvent celui de Nyon, que ça soit dans les vignes ou au bord du lac, je vous ai parlé aussi des abeilles ou des grenouilles, j'arrive en quelque sorte, grâce à l'imagination, à me rapprocher de ma sphère intime et familiale, grâce à certains éléments naturels qui me sont prédisposés par le territoire. Et l'une de ces sphères-là est celle du jardinage, qui me rassocie et qui me rapproche à mon milieu, enfin à mes grands-parents, quoi, qui cultivent la terre, etc. Mmh.
Donc voilà. Mais on aimait bien, en tout cas, entendre, et c'est ce qu'on va entendre là dans cette seconde partie de conversation, les multiples strates et les multiples provenances de ce sol nyonnais, parce que enfin pour nous c'était aussi une des surprises de voir qu'il y a autant de personnes venant de plein d'endroits différents, puis surtout en tout cas une chose qui est très spécifique ou différente de ce qu'on peut avoir en France, qui est que ces différentes provenances qui vous caractérisent les uns les unes et les autres, ou ces différents lieux auxquels vous vous attachez, ne vous assignent pas à des types de quartiers ou à des endroits très spécifiques dans la ville, que tout a la possibilité de se croiser. En tout cas, c'est dans notre paysage fantasmé, c'est ça qu'on a entendu de beaucoup de vos récits, qu'il y a, voilà, tout est poreux et tout peut se visiter les uns les autres. Et cette manière de se rappeler constamment que si nos ici existent, c'est parce qu'ils sont faits des ailleurs, c'est précieux en ces temps de repli multiples. Donc on va s'intéresser à ça pour la suite.
Il était un village enfoncé dans le ventre des collines qui désirait frénétiquement la mer. Et comme il lui était impossible de jamais la rejoindre, il gelait sans espoir autour d'un centre vide.
Ήταν ένα χωριό χωμένο στην κοιλιά των λόφων που ποθούσε παράφορα τη θάλασσα. Και καθώς ήταν αδύνατο ποτέ να τη φτάσει, πάγωνε γύρω από ένα κέντρο κενό χωρίς ελπίδα.
Cependant, les gens qui vivaient là sombraient opiniâtrement dans sa boue, se raccrochaient à ses pierres et à ses arbres.
Οι άνθρωποι όμως που ζούσαν εκεί τόσο βυθίζονταν με πείσμα μες στη λάσπη του, αρπάζονταν από τις πέτρες και τα δέντρα του.
Son chagrin brûlait au fond de leur âme, comme si ces gens ne vivaient pas à leur place, comme si leur place existait ailleurs et leur manquait.
Βαθιά μες στη ψυχή τους έκυγε ο καημός του, σαν να μην ζούσαν κάθε μέρα στον τόπο. Κάθε μέρα στον τόπο τους, σαν να ήταν ο τόπος του αλλού και να τους έλειπε.
Ils n'étaient jamais satisfaits. Ces herbes étaient des herbes médicinales. Avec elles seules, ils guérissaient leurs blessures.
Με τίποτα δεν το χόρτεναν. Τα χόρτα του ήταν βότανα. Με αυτά μονάχα γιατρεύαν τις πληγές τους.
Ils construisaient des maisons et labouraient la terre, la travaillaient et en ramassaient le fruit avec rapacité, dans la crainte que demain ou après-demain, les lieux mettent les voiles en les abandonnant sans foyer, sous l'œil menaçant d'une montagne. Et sans cesse, ils s'efforçaient de les ceinturer, Ils cassaient la pierre, ils construisaient des murets soignés, ils bâtissaient une maison sur le mur d'une autre, ils s'asseyaient côte à côte et allumaient un méchant feu rougeoyant. Et tous les soirs, ils écoutaient le déracinement, le grincement, les craquements du village, pris dans l'immense effort qu'ils faisaient pour se déplacer.
Χτίσανε σπίτια και δουλεύανε τη γη, όργωναν και μάζευαν το καρπό με φόβο, με απλησία, πως αύριο μεθαύριο θα έχει σαλπάρει, αφήνοντας τους κατάμονους κάτω από το απειλητικό μάτι του βουνού, χωρίς εστία, και όλο πασχίσαν να το δέσουν με όρια, σπάζαν την πέτρα, και έφτιαχναν μάντρες περίτεχνες και έχτιζαν το ένα σπίτι στον τοίχο του άλλου. Καθόντουσαν κοντά-κοντά και ανέβανε μια κόκκινη μοχθρή φωτιά και κάθε βράδυ ακούγανε τα τριξίματα και τους κρότους που ξεζώνανε τον τόπο στην απέραντη προσπάθεια που έκανε να μετακινηθεί.
Personne ne parlait de cette raison secrète pour laquelle, ici, l'eau des puits ou des fontaines ne stagnait pas, mais tourbillonnait constamment. Alors, ils se saoulaient, seuls ou en bande, ils festoyaient, ils buvaient, se serraient les uns les autres dans leurs bras, et parfois, ils dansaient en cercle pour que personne ne s'échappe. Et parfois même, ils se poignardaient et s'injuriaient les uns les autres. Tout cela parce qu'ils avaient le mal d'un lieu qui ne voulait peut-être pas d'eux.
Κανένας δεν μιλούσε για το μυστικό αυτό που έκανε την πηγάδια του χωριού να μην έχουν στάσιμα νερά παρά συνεχώς να αναταράσουν. Και έτσι μεθούσαν, πίνανε άλλος μόνος και άλλοι με παρέα, πίνανε και γλεντούσαν και αγκαλιαζόταν σφιχτά και άλλοτε χορεύανε σε κύκλο κανένας μην ξεφύγει και άλλοτε μαχαιρόνταν και έβρισε ο ένας τον άλλον. Αλλά όλα αυτά εξαιτίας του είχαν το μαγάζι ενός τόπου που δεν τους είσαι.
Le livre de la terre de Katerina Ulioponi. Merci beaucoup, Sophie.
Elle est sympa, la Poli. Qu'est-ce qui fait lieu? Quels sont les liens qui font nos lieux? Les liaisons avec le lointain qui nous permettent de nous sentir ici. Quels sont les ailleurs nécessaires à chacun de nous ici? C'est des questions qu'on a tendance à oublier quand on fait le portrait d'une ville. Ou du moins, des questions qu'oublient toujours les agences de com ou de tourisme, en croyant que pour rendre attractif un endroit, il faut en faire une carte postale, un petit écrin, une boule de neige sous vitre, comme nous le disait Sandra Beau-Pastor, dont vous avez entendu la voix à plusieurs reprises. Et on a bien vu avec nos conversations que la puissance de beaucoup d'actions est donnée par leurs articulations avec des ailleurs. Gianluca, tu viens nous le rappeler. Nadir, dont vous avez entendu une chanson ancienne, je crois, mais vraiment qu'on adore, mon quartier. Donc Nadir, qui a pu commencer à regarder vraiment les gens d'ici après s'être déplacé et avoir fait un long voyage dont tu vas pouvoir un peu nous parler parce qu'il est aussi témoin. Il raconte bien la manière dont ses déplacements sont moins des endroits pour se perdre, pour être dans un exotisme étrange, mais parfois simplement pour se rapprocher et de soi et des autres et de la possibilité de toujours les considérer, les autres autour de nous. Et ce voyage, tu l'as mené en Amérique latine, dans cette même Amérique latine que la cinéaste-artiste Pauline Julliet a visité, et par laquelle elle questionne aussi notre rapport à l'ici et à l'ailleurs, en faisant varier les emplacements de l'un et de l'autre, à l'extrême de l'imagination, puisqu'on va jusqu'à Mars. Pour toi, Pauline, tu vas pouvoir nous en parler. Mais comme souvent, je crois que c'est le propre de ton film et de beaucoup de vos travaux à plusieurs des participants aussi qui touchaient à la sphère artistique, l'imaginaire et la fiction sont les détours nécessaires par lesquels on accède au cœur du réel et de tout ce qui, dans ce réel, relève de la composition et donc laisse ouvert les transformations. Les notions d'ici et de là-bas, de foyer natal et de terre étrangère, de chez nous et de chez eux, tout ça, ce ne sont ni des réalités figées ni des fatalités à subir. Ce sont des fictions politiques ou des fictions policières. Au sens où ce qu'elles servent, malheureusement, le plus souvent, c'est le contrôle des populations, au sens de leur délimitation, de leur parcage parfois, de leur assignation trop souvent. Mais si ces fictions agissent dans le réel des vies, en bloquant certains sujets du côté du monde où ils ne veulent pas rester, et je crois qu'on le voit cruellement depuis quelques jours avec ce qui se passe en Afghanistan notamment, ou ces fictions qui peuvent, en faisant qu'en aucun côté du monde on se sent jamais totalement arrivé ou installé, ces fictions-là, elles peuvent se vivre avec regret. Ce fut le cas parfois pour Ieb, qui était là au début de l'émission et qui est parti. Pendant un temps pour Manuel, qui devait être là, mais qui malheureusement est à Genève, mais dont vous avez entendu la voix. Ces fictions-là, en tout cas, d'être étranger ici, être chez soi là-bas, se vivent soit avec regret, comme je disais, ou avec joie et désir, comme Sophie. Tu en es un exemple avec la Grèce, exemple que je partage avec toi. Un différent point. Ces fictions-là, elles peuvent être reprises, passer de policier à politique. Elles peuvent être assumées, transformées. Et c'est une question certes de politique, mais aussi d'esthétique. Comment pouvons-nous, par nos fictions poétiques, filmiques, photographiques, par nos manières d'agencer les traits, ça veut dire ça, fiction, c'est juste un mode d'agencement. Donc comment, par nos manières d'agencer les traits, de travailler les distances et les proximités, comment pouvons-nous proposer d'autres images et imaginaires qui nous rappellent que nous sommes de ce monde? De ce monde, point. Que nous sommes de ce monde commun, non pas comme un, commun parce que pluriel, parce que mêlé, et que vivre en ce monde et faire vivre le monde de l'étrangeté et de l'étranger, c'est avec ce rapport permanent avec l'autre, l'altérité qui survient. De cela, de la nécessité de l'altérité, on en a tous fait l'expérience ces derniers mois. On a vu que pour qu'il y ait sentiment de vitalité, pour qu'il y ait juste expérience, bah, il faut de l'hétérogène, il faut de l'étrangeté, il faut du divers. C'est ce qui nous permet d'être affectés, c'est ce qui permet qu'on soit sensible et qu'on soit tout simplement en vie. Et de ça, de la possibilité d'être en vie et de ne pas imploser du dedans par perte du choc, on peut le travailler tout autrement que par la barricade et l'enfermement. Donc, puisqu'on est pour ce second temps de conversation dans cette tension entre politique et esthétique et qu'on prend soin des apports de l'étrangeté, ben, on avait envie de donner en premier la parole à Pauline, puisque Pauline Julier, qui est apparemment loin de nous, puisqu'elle n'est pas de Nyon, mais en même temps, elle est très proche de nous, puisque c'est une des premières artistes qui a rejoint le collectif Compost quand on l'a initié à Berlin. C'est aussi elle qui nous a logés dans nos premiers jours d'arrivée en Suisse, avant d'être secondée par Sophie, qu'on remercie encore l'une et l'autre. Mais tu es aussi très proche de nous et de tout ce qu'on a partagé, justement dans tes questionnements et tes soucis, notamment dans un de tes derniers travaux, donc un film qui s'appelle Persévérance Vallée, et qui explore aussi ces tensions entre l'ici et l'ailleurs, avec tout le danger justement de ces rêves d'exploration qui peuvent aussi être des rêves de colonisation ou d'exploitation. Donc peut-être tu peux nous parler un peu de ce travail et rebondir sur certaines des choses que tu as entendues jusqu'à présent. Et puis on continuera les rebonds vers les seconds conversants de ce moment.
Oui, avec plaisir. C'est bien loin de Nyon, effectivement. Et à la fois, il y a plein de choses qui, comme tu le dis, font écho, se recoupent ou sans doute se nourrissent. Le projet de film dont tu parles est en cours d'écriture, donc je vous prie aussi d'excuser les approximations de présentation. C'est un film et une recherche que j'ai initiée il y a un an et demi, avant la pandémie. J'étais invitée au Chili pour montrer mon travail à la Biennale de Santiago de Chile. À l'époque, c'était au mois de novembre 2019, donc il y avait un peu comme ça, ce qu'on a appelé une révolution, en tout cas là-bas, du peuple qui était le peuple chilien dans la rue, en lutte contre l'État, puisqu'à l'époque, il y avait eu une hausse très forte, notamment une hausse très forte du prix des titres de transport et des tickets de métro, qui avait soulevé la population comme ça contre le gouvernement. La ville était complètement bloquée. Et du coup, très difficile d'accès. Tout l'événement de la Biennale a été annulé. Donc, évidemment, on s'est retrouvé un peu là-bas, à la fois étranger dans une terre qui nous invitait, et à la fois, évidemment, aussi avec ce poids de non seulement être blanc, mais en plus être artiste. Enfin bref, c'était une période compliquée pour être sur place et travailler. Donc on a décidé de s'éloigner un peu de la capitale. Et moi, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'aller dans le désert d'Atacama, qui est un désert assez connu dans le monde, disons, du cinéma et des images, puisque c'est un lieu où Guzman, qui est un réalisateur chilien, a fait beaucoup de films, et que, donc un lieu qui à la fois m'attirait beaucoup et me faisait un peu peur. Le désert d'Atacama, c'est l'endroit le plus sec au monde, donc c'est l'endroit où il y a le moins d'eau. C'est un endroit qui est à la réunion de plusieurs autres pays autour, donc c'est un lieu de passage qui est très, très important pour la région. C'est un haut lieu du tourisme de l'extrême aussi, et qui est en train de dévaster pas mal ce territoire. Et c'est aussi un lieu très fort pour l'économie, parce que les sous-sols contiennent beaucoup de lithium. Donc c'est un des lieux où il y a les plus grandes mines d'extraction de lithium au monde. Et en étant là-bas, en rencontrant des gens, on s'est approché. Je travaillais en collaboration avec Clément Postec, que j'aimerais ici remercier pour ne pas l'oublier. On travaillait sur place, on a essayé de s'approcher de ces mines de lithium, et on a découvert petit à petit, non seulement que l'extraction du lithium... Le lithium, c'est peut-être pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qui est utilisé pour les batteries, pour nos téléphones portables, pour nos batteries de tout d'ailleurs. D'ordinateurs, etc. Mais c'est aussi une chose qu'on sait moins, ce qui nous sert pour nos antidépresseurs, c'est-à-dire que c'est un stabilisateur d'humeur. Donc assez vite, on appelle ça l'or blanc, et c'est un des outils donc aussi de la modernité, enfin ce qui nous permet de stimuler nos batteries, de tout type qu'elles soient, nos batteries d'échange, mais aussi nos batteries émotives, comme ça. Et c'est décrit comme une énergie propre, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais je ne vais peut-être pas m'emballer dans les détails techniques. Mais en tout cas, pour la région, ça assèche les sols, évidemment, dans une région qui est déjà, où l'eau est déjà une thématique difficile pour les habitants. En essayant de s'approcher de ces mines, évidemment, on n'a pas accès aux mines parce que c'est compliqué d'en rentrer avec une caméra, etc. Donc, on fait le tour un peu de ces mines, puis on commence à avoir des infos, notamment sur le fait qu'ils pompent de plus en plus bas dans les nappes d'eau préhistoriques. Enfin, bref, on commence à avoir des infos de plus en plus affolantes, comme ça, sur la situation sur place. Et puis, en se baladant, on tombe sur un groupe de gens habillés en blanc, avec écrit NASA sur le côté, comme ça. Puis, donc on s'approche, on discute avec eux. Et en fait, ils étaient là avec leurs rovers. Donc, les rovers, c'est les astromobiles, on dit ça en français. C'est donc ces machines qui sont envoyées sur Mars pour explorer le sol nouveau, en tout cas le sol inconnu de Mars. Et on les entraîne à cet endroit-là parce que c'est le sol qui ressemble le plus à Mars sur Terre. En discutant avec les ingénieurs qui étaient là, qui entraînaient leur rover, on commence à se rendre compte qu'il y a un lien, en tout cas, on fait un lien entre deux choses qui se trouvent sur un même sol, c'est-à-dire aller pomper le plus bas possible dans les nappes phréatiques et aller le plus loin possible pour conquérir, pour voir, pour comprendre une autre Terre potentielle. Parce qu'assez vite, les ingénieurs nous parlent quand même de Mars comme une Terre potentielle. Et aussi, et ce sera les mots d'un des ingénieurs qu'on rencontre, ils nous disent « du sol d'Atacama à Mars, il n'y a qu'un pas ». Et donc, on s'interroge, nous, dans ce film, sur quel espace stratégique ou quel sol stratégique ça dessine entre le désert d'Atacama et Mars.
Merci beaucoup, Pauline. Enfin, en tout cas, c'était important pour nous d'ajouter cette, grâce à toi, cette dimension. Et puis, bon, évidemment, on ira tous voir le film. On espère. non, vraiment, merci beaucoup. Et enfin, d'ajouter cette dimension-là, puisque c'est... C'est aussi facile d'être constamment dans ce rêve de l'ailleurs. Et en effet, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a toute cette nouvelle fable de la conquête. Donc c'est à la fois formidable de partir et en même temps, c'est intéressant de voir qu'à chaque crise nouvelle, il y a ce nouveau rêve de l'ailleurs qui, en fait, cache souvent des drôles de choses comme ce « il n'y a qu'un pas entre deux formes d'exploitation ». Et maintenant qu'on a bien tout saccagé sur cette terre, allons en trouver une autre pour continuer le travail. Mais il peut aussi y avoir d'autres manières d'aller dans ces déplacements-là et en tout cas d'expérimenter à la fois avec toute la complexité et la conflictualité qu'il y a à ça, avec tout ce que ça vient bouger de pas très joli de nous aussi parfois, ces rapports à l'ailleurs. Mais au moins de s'y confronter, c'est toujours un voyage, pas simplement quand on est là-bas, mais aussi quand on revient. Et je crois que Nadir, c'est vraiment quelque chose que tu as beaucoup partagé avec nous, Nadir, que là aussi on a découvert, que tout le monde connaît, puisque c'est un enfant du pays, de Nyon, un enfant de la Levrette, donc que tu as vu, un quartier que tu as vu beaucoup changer à travers les années. Mais tu as fait, juste avant le début du confinement, un long voyage en Amérique du Sud, si je ne me trompe pas. Pas du tout un... Enfin, tu vas nous en parler, mais c'est vraiment précieux d'entendre aussi comment ça a rouvert, toi qui connais tellement cet ici de Nyon, comment ça a rouvert tout un rapport avec cet ici-là, et que les deux, finalement, sont toujours constituants de nos expériences, ces ailleurs géniaux ou dangereux, et comment est-ce qu'on articule tout ça et on trouve la bonne mesure pour habiter.
Bon, alors en fait, ce voyage que j'ai fait, c'est parti d'une idée d'un reportage photographique, en fait. Et je suis parti dans le Grand Nord du Canada et en Amérique du Sud. Mais ce qui est intéressant, là, par rapport à toute cette dimension et tout ce qu'on a discuté, c'est que c'est le ici qui m'a amené ailleurs, en fait. Donc, c'est des rencontres nyonnaises et des gens qui sont d'ici ou de la région qui sont partis, en fait, et qui ont décidé de quitter la Suisse pour des raisons, toutes sortes de raisons, mais souvent des gens qui ont vécu des burn-out, des dépressions, et qui ont décidé de changer de vie, en fait.
Mais c'est les antidépresseurs.
Et, voilà, exact, on rejoint l'histoire des... Et donc voilà, c'est intéressant aussi de voir cette manière de se déplacer, en fait, parce que tout à coup, on a envie de changer de système, de changer de manière de penser. C'est ce que je plaisantais avec ça, l'histoire de Disneyland, la Suisse et tout ça. Mais je veux dire, il y a plein de problèmes aussi en Suisse. Hein, c'est pas pour dédramatiser les problèmes en Suisse. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a des gens qui quittent la Suisse, en fait. Et c'est ça qui est super intéressant. Et ce travail était là-dessus. Et aller à la rencontre de ces gens. Parce que moi, ce que j'aime surtout, c'est rencontrer les gens, en fait. Et rencontrer les gens ici, mais rencontrer les gens ailleurs aussi. Et pour le coup, là, des gens qui étaient ici et qui sont partis ailleurs. Donc voilà, ça fait la boucle. Mais donc en gros, voilà, ce projet, je l'ai fait là-dessus, sur des personnes qui ont tout quitté. Et l'idée, c'était de comprendre pourquoi ils sont partis et leur motivation, mais aussi comment ils se sentent maintenant dans ce nouveau contexte. Et ouais, c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est de se dire qu'il y a des gens qui se sentent mieux là où ils sont maintenant, alors qu'il y a plein de gens qui quittent aussi ces pays pour venir chez nous. Donc voilà, ça existe dans les deux sens. Et en gros, c'est avec beaucoup d'humilité que j'ai fait ce projet. Il n'y a pas du tout de... Je l'ai fait aussi pour moi, ce voyage, avant tout. Je vais le dire. Et c'était très riche. C'était très intéressant de non seulement rencontrer ces gens, mais rencontrer ces paysages. Et c'est vrai que mon retour, comme on a pu en discuter aussi, m'a donné envie de redécouvrir aussi Nyon autrement, ma ville. Et du coup, c'est vrai qu'en arrivant au mois de mars, il y avait toute cette histoire avec le Covid. Donc, c'était une belle manière pour moi de redécouvrir ma ville autrement. Littéralement autrement. Et moi, je l'ai super bien vécu, en fait, cette période. J'étais, je pense parce que aussi, je suis rentré d'un voyage qui était tellement dense. J'ai rencontré tellement de gens. C'était tellement de stimulation que, du coup, me retrouver dans une forme de vide, mais qui ne l'en est pas du tout, m'a juste permis de poser tout ça, en fait, tous ces bagages, toutes ces choses que j'ai pu vivre. Et donc, du coup, moi, c'était un cadeau, en fait. C'est moi où voilà, je me suis baladé au-dessus de chez moi. C'était le rêve. Donc, c'est vrai que j'ai une perception de cette période qui est plutôt très positive. Et je pense que c'est bien aussi d'en parler. Hein. Il n'y a pas que des choses négatives. On parle assez de choses négatives. Donc, moi, je vis un peu sur un nuage, moi, en fait, du coup, par rapport à tout ça. Et j'aime cette ville. J'aime cette énergie. J'aime tout ce qui... Je veux dire, là, on est dans un cadre qui est juste incroyable. Peut-être qu'on se rend pas toujours compte, mais moi, en fait, à chaque fois, je me rends compte de ça. Et c'est vrai qu'il en parle aussi, Gianluca, à sa manière aussi, de manière poétique, de dire que ici, il y a plein de choses qui nous ramènent à ailleurs aussi, à d'autres choses, à l'océan, à la mer, quand on se balade au bord du lac. Moi, ça m'a beaucoup parlé, ce que tu as dit par rapport à ça. Et voilà, et c'est une ville qui est riche, riche culturellement. Il y a une énergie très spéciale. Et pour parler d'autre chose que mon voyage, mais c'est tous des voyages en fait. Hein. Tout est un voyage. Et c'est vrai que j'ai appelé ce projet la route de soi, parce que pour moi, c'est un voyage intérieur avant tout. Et finalement, peu importe où on va à notre propre rencontre, je crois. Et voilà, je voulais terminer avec ça.
Merci, mais ce que tu rappelles aussi quand tu dis notre propre rencontre, c'est que, enfin moi, ce que je trouve précieux, sinon c'est presque triste, en fait, si on faisait ces déplacements que pour sa propre rencontre, mais c'est de se rappeler que chacun de nous, en fait, est fait de ces multiplicités-là, et que c'est justement parce qu'il y a du multiple qu'il y a du soi. Enfin, c'est encore du singulier commun, mais c'est, je crois que c'est vraiment important de se le rappeler aujourd'hui, puisque c'est vraiment des conceptions tout à fait opposées de l'individu. Il y a soit l'identité qui est née ici et reste ici, et il y a soit le singulier qui est ce qui se construit le long d'un chemin de vie qui se fait par toutes ces rencontres. Ça ne veut pas dire forcément partir, mais c'est en tout cas rester poreux à ce qui vient perturber un chemin. Et d'ailleurs, ça me fait raconter une anecdote qui est l'anecdote de, en fait, voilà, il y a des artistes ici, puis c'est un festival artistique avec beaucoup de gens qui inventent des choses et des projets merveilleux. Puis on a entendu Pauline et toi qui es aussi un artiste. On a tendance à penser justement l'artiste comme celui qui a l'idée de génie et qui a comme ça un don lui aussi du ciel. C'est pas la catastrophe, c'est le poème. Mais en fait, la chose qui caractérise un artiste, c'est qu'il invente. Et l'invention est ce qu'on appelle un inventeur dans le vocable courant, en fait, c'est rien d'autre que la personne qui a trouvé quelque chose sur sa route et qui l'a ramené au service des objets trouvés. Donc c'est simplement être attentif à ce qui vient à un moment perturber un chemin, le prendre et non pas tracer tout droit, mais aller l'amener à une destination dont on ne sait pas si ça parviendra ou pas à son propriétaire, mais en tout cas on aura fait le pas d'aller jusqu'au bout de cette rencontre. C'est ça qu'on appelle un inventeur. Donc je trouve que c'était une belle manière d'incarner l'inventeur et l'inventeuse l'un et l'autre. Et aussi, ce qui est intéressant dans vos deux approches, c'est cette capacité à convertir le regard, c'est-à-dire non pas s'intéresser en effet depuis ici, comme tu l'as dit, à ceux qui viennent chez nous, mais s'intéresser en allant là-bas à nous qui y allons et pourquoi, et par quel, c'est mu par quoi en fait, et par quelque chose, encore une fois, très, très louable ou très précieuse à se rappeler, mais aussi parfois par... Des espèces d'archaïsme d'imaginaire et de fantasme en fait, de ce qu'on va trouver ailleurs qui nous sauvera d'ici et qui fait qu'on annule la considération à l'ici. Et dans ces rapports d'ici et d'ailleurs, peut-être, Sophie, tu veux nous raconter, parce que tu nous incarnes aussi à ta manière, une manière non pas d'opposer l'ici et l'ailleurs, mais de ton amour fou pour cette Grèce qui est non pas simplement une fuite de Nyon pour aller la retrouver, mais au contraire de créer des liens, tout comme Manuel le fait en étant à l'association des Portugais de Nyon, ou comme d'autres des différentes associations de ces multiples nationalités qui sont présentes dans cette petite ville et qu'on a pu rencontrer grâce à Michel, puis grâce à Christiane et puis maintenant grâce à toi. Mais peut-être tu peux nous parler de l'envie, en tout cas, de ramener la Grèce ici, à Nyon, en créant une association avec d'autres et faire que, encore une fois, ça ne ghettoise pas les groupes sujets, mais qu'au contraire, ça crée du lien à la fois entre les pays, mais aussi entre ces différentes communautés, puisque, autre événement à mettre dans les agendas, le 5 septembre, la fête interculturelle de Nyon, qui aura lieu à Rives. Voilà.
Oui, alors moi, mon amour fou, comme tu le dis, tu l'as compris, tu as très bien perçu ce que je ressens pour ce pays, que ce n'est pas mes gènes ou mon sang qui m'ont amené dans ce pays, mais je sais pas, une curiosité. Et quoi. Malgré un premier voyage là-bas qui était plutôt un peu frustrant à plusieurs niveaux, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Quand je suis tombée amoureuse de ce pays. Et puis maintenant, ici, à Nyon, j'ai l'énorme chance, je pense, par mon travail, de côtoyer des gens de partout, mais aussi un grand nombre de Grecs, parce que je suis sage-femme. Et puis, il y a beaucoup de jeunes familles qui sont venues s'installer à Nyon et dans la région. Et puis, quoi, j'avais envie un petit peu... Bah, déjà, moi, dès que je peux parler le grec, je prends l'occasion. Alors, je me suis dit... puis aussi, ces personnes, peut-être, elles débarquent ici, elles ne se connaissent pas forcément, elles sont venues beaucoup pour des motifs suite à la crise économique de leur pays. Donc, elles sont venues travailler. Des fois, c'est une personne du couple qui vit depuis des années déjà ici pour vraiment travailler, gagner de l'argent pour vivre. Et puis, l'autre personne du couple qui rejoint. Et après, ben, ils créent leur famille ici. Et puis, voilà, j'ai une grande chance de pouvoir m'introduire dans ces familles en devenir. Et aussi souvent, ben, y a la maman la grand-mère du bébé qui vient aussi pour aider les premiers temps. Ce que je trouve très précieux, qu'ici on a souvent un petit peu perdu parce qu'on vit plus en famille un peu nucléaire. Puis bon, bref, alors je suis toujours très, très contente de tous les échanges que je peux avoir par rapport au pays que j'aime. Et puis, j'ai eu l'idée, mais très égoïste hein, pour moi, de mettre ces personnes en contact. Et puis, d'aller boire des cafés, proposer d'aller boire des cafés de temps en temps, ceux qui peuvent, ceux qui ont envie. Donc, on avait créé au début, c'était un groupe WhatsApp que j'ai appelé Café Nyon. Et ça, c'est un jeu de mots. Parce que le Café Nyon, dans chaque village en Grèce, il y a un café où normalement se rencontrent les hommes et passent toute la journée à parler, à échanger sur différents sujets et tout. Et puis, il y a quelques années, c'était vraiment réservé aux hommes. Les femmes n'y avaient rien à faire. Et puis, le Café Nyon de Nyon, c'est le jeu de mots avec Nyon.
C'est une ville pleine de jeux de mots, on a vu.
Oui,
l'espace, la vie, là.
on s'est retrouvés. Alors, on n'a pas d'espace réel. Pour l'instant, il n'y a pas de café grec. Mais on va là où le vent nous emporte. Et puis, on se trouve. Et puis, en fait, il y a des associations de Grecs un peu partout. Il y en a à Genève, il y en a à Lausanne. Et j'ai été 2-3 fois, mais moi, je ne suis pas grecque. Donc, j'ai la chance de pouvoir communiquer parce que je parle le grec. Mais je n'étais quand même pas complètement acceptée non plus. Puis, je n'ai pas non plus les mêmes besoins ou demandes que ces gens ont. Et du coup... Avec Alexandros, qui est le président de notre association, on a créé cette association, mais avec la spécificité que c'est aussi pour les philhellènes, les amants ou les amoureux de la Grèce. Et l'idée, en fait, c'est aussi que des gens, tout le monde peut venir. Physiquement, c'est encore un peu compliqué parce qu'on a créé notre association en plein confinement. Donc, on n'a pas vraiment pu faire des événements dans la vraie vie. Mais l'idée, c'est aussi de proposer... Par exemple, on avait commencé un petit peu, mais on a dû un peu interrompre. Proposer des cours de danse grecque. Donc là, les Grecs qui vont grandir avec ces danses dans leur panigiri. Les fêtes de village qui apprennent ça depuis qu'ils sont tout petits, mais il y a aussi beaucoup de gens qui adorent, qui ont été une fois en voyage en Grèce et qui ont vu ce genre de fêtes de village et qui adorent danser comme ça. Donc
c'est cool. C'est pourquoi Christiane peut dire qu'elle aime danser avec les Grecs puisque c'est ouvert à tout le monde.
Oui, et puis on va en faire une petite démo, on espère, à la fête de l'interculturel.
Voilà.
Mais voilà, on n'a pas pu vraiment se préparer à cause des conditions sanitaires. Mais aussi, on a envie de faire tout un chacun peut amener ce qu'il a envie. Mais proposer des tandems. Ça rejoint peut-être aussi un petit peu... c'est pas des cours de langue, parce que c'est pas quelque chose d'organisé et de structuré, mais c'est des échanges d'une personne qui voudrait apprendre le français ou perfectionner le français, mais en échange, elle permet à quelqu'un qui a envie d'apprendre le grec ou de quoi que ce soit pour un voyage, apprendre juste les bases ou bien un petit peu, n'importe quoi. Ouais, on essaye un petit peu de créer des liens comme ça. Puis proposer des cours de cuisine peut-être et des choses, des moments pour jouer aux échecs, parce que par exemple, ou au tavli, c'est des choses que les Grecs font beaucoup.
Merci beaucoup Sophie, et c'est une belle dans les vœux de Christiane que les choses ne soient pas séparées les unes des autres. C'est beau que cette nouvelle association qui rejoint cette grande interculturalité nyonnaise et cette ouverture-là, enfin ce que tu viens de dire sur le fait que c'est ouvert à tout le monde, c'est important. Et on aurait plein de choses à continuer à nouer, mais je crois que tout le monde a froid, dont moi. Mais je vois les pulls se recouvrir, puis beaucoup de personnes aussi ont dû partir pour soit des spectacles, soit des obligations. Donc on va peut-être en tout cas bientôt clore ce moment radiophonique, mais la parole est ouverte à d'éventuelles questions ou personnes qui souhaitaient ajouter quelque chose. Et sinon, on va conclure doucement et pouvoir continuer de manière plus informelle aussi ici ou dans la cour des marchandises pour ceux qui poursuivent au festival phare. Mais la parole est ouverte. C'est très intimidant. Mais voilà, ce sera votre dernier non-mot.
On peut aussi parler hors micro dans 3 minutes. Il est donc 20h10 et nous sommes toujours en direct du jardin du Conservatoire de Nyon dans le cadre du festival Singulier Commun du Phare. Et vous venez d'entendre Territoire Fantôme et Gestes Paysages réalisés par le collectif Compost, avec les habitantes et les habitants, les voisines et les voisins de Nyon. En présence de Chloé Bess et Marlo Carlen, Gianluca Solimine, Ieb Elmana, Sophie Mink, Manuel Marquez, Kirsten Herb, Nadir Mokhtad, Michel Piguet, Jean-Marie Grillon, Catherine Mater, Loïc et Dédé, Christiane Piazzini, Pauline Julier, et avec les voix et les contributions de Isabelle Amiguelou, Caterina Andréou, Sandra Beau-Pastor, Nathalie Raya-Ether, Swann Cherpillot, qui était un petit peu là avec nous, Gaëlle Christinat, Peter Jones, Myriam Hofer, Véronique Ferrero-Delacoste, Maëva Lamolière, Marco Canale, Jocelyne Frachebou, Diane Diasouka, Roxane Faro, Francis et Marie Jagui, Thierry Boutonnier, Naga Gambier et Marc Etchels, ainsi que Sarah Leguissa. Les textes sont extraits du livre « Nous campons sur les rives » de Mathieu Riboulet, ainsi que de celui intitulé « Le livre de la terre » de Katerina Iliopoulou. Une émission réalisée avec le regard et les voix de Camille Louis, Laurie Bélanca et les sons de Benjamin Chaval, ainsi que tout ce qui nous entoure. Un immense merci à toutes les personnes qui ont permis à cette émission de se tenir ici, aujourd'hui. Toute l'équipe de Radio et toute l'équipe du Phare. Merci beaucoup. À bientôt.